Vous êtes à l'écoute de Libre à toi, la radio. Alors, tu vas mettre un casque. Tu vas prendre un micro.
Ah bah oui. Hein,
c'est bonjour à toi, qui es-tu ?
Alors, je suis Ludovic.
Ludovic, alors on est Ludovic avec toi. À cette soirée d'anniversaire, c'est les 20 ans de l'April que nous fêtons ce soir au Petit Bain. Alors, tu fais quoi, toi,
Donc, en fait, Ludovic. Je suis donc Ludovic Dubost et je suis président fondateur de XWiki.
Ah, mais ça veut dire que nous avons une éminente personne avec nous ce soir.
Oh, ben, c'est vite dit, c'est vite dit.
C'est vite dit. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui... alors, c'est quoi ta structure, d'ailleurs ? Je ne la connais pas.
Alors, donc, XWiki, c'est un éditeur de logiciels libres. Donc, qui existe depuis 12 ans et qui fait, comme son nom l'indique un petit peu,
du wiki.
Un wiki pour les entreprises.
Ok.
Donc 100% libre. Et donc bah, c'est une entreprise qui fait quand même 35 personnes aujourd'hui. Donc qui a un peu de poids et qui a des utilisateurs dans le monde entier.
Alors pourquoi l'April ?
Alors nous, bah, nous d'abord l'April.
Vous êtes adhérent ?
On est adhérent et on sponsorise l'April depuis assez longtemps, je sais pas, au moins 5 ans. Depuis qu'on a un peu de sous, hein, depuis qu'on a les moyens, bah, d'abord parce que oui, bah, l'April défend nos intérêts, défend l'intérêt du logiciel libre, et donc bah, c'est quelque chose qui pour nous est important, parce que le logiciel libre c'est un engagement aussi de notre côté, donc c'est quelque chose qu'on a. Alors déjà c'est quelque chose que quand j'ai créé la XWiki, je l'ai créé sous forme de logiciel libre dès le début.
D'accord.
Et donc c'était un projet d'entreprise et un projet d'entreprise libre en même temps.
Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup avec toi Ludovic, on va pouvoir aborder l'économie du logiciel libre. Pourquoi déjà te transformer en société et quel type de société tu as fondé autour de la production de ce logiciel libre, et quel est le modèle économique que tu as retenu? Est-ce que c'est le classique qui consiste à donner le code et à vendre du service autour, du support notamment, de l'installation, du développement à la demande de modules? Est-ce que si c'est le modèle que vous avez retenu, ces modules sont eux aussi reversés dans le logiciel libre ou restent privatisés à l'entreprise pour laquelle vous l'avez développé? Bref, des thèmes intéressants qu'on va pouvoir évoquer.
Bah, effectivement, c'est des thèmes assez intéressants. Alors en fait, quand j'ai créé XWiki, j'avais pas forcément d'a priori. En fait, finalement, je connaissais pas assez.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai découvert en marchant. Et
comme beaucoup, hein, nous aussi on découvre en marchant. Hein.
Et donc au début, je l'ai fait. Alors d'abord, je l'ai fait libre par conviction que le libre.
Quelle année d'ailleurs ?
Changeait quelque chose. Bah, en 2004.
2003.
J'ai commencé le logiciel en 2003, fin 2003, et j'ai créé la société en 2004.
D'accord.
Et en fait, alors déjà, pour moi, c'était une évidence parce que déjà les wikis c'était une invention du libre. Alors et les wikis me passionnaient. Je les ai utilisés en tant qu'ingénieur, directeur technique d'une boîte, et c'était un peu une évidence de dire bah je vais prendre des idées du libre, bah faut peut-être que je les fasse en libre. Mais d'ailleurs au début je me disais le collaboratif m'intéresse, les problématiques collaboratives m'intéressent, on va le faire en libre. C'était aussi ça. Puis après finalement c'était de dire faire notre propre logiciel, c'est venu un peu assez rapidement derrière. Mais au départ en fait je m'étais posé la question de je suis un peu perdu dans ce que je voulais dire. J'ai oublié, je l'avais en tête, je l'ai oublié. Donc au début, j'ai mis le logiciel en libre et sur l'aspect wiki. Et je voulais voir un peu déjà si ça intéressait les gens. Donc si et voilà. Et en fait, pourquoi le libre aussi? C'est parce que j'avais vu des sociétés comme Red Hat se monter, des sociétés comme JBoss se monter. Et en tant que personne qui utilisait des logiciels, en fait, j'avais été dans une société qui avait vécu 5 ans et on avait fait des choix techniques au début de ces 5 ans. Et j'avais regardé à la fin des 5 ans, est-ce qu'on aurait fait des choix différents? Et finalement, la seule chose qui avait changé dans ces choix techniques, c'était le libre.
Mmh.
C'est-à-dire que tous les choix qu'on avait fait 5 ans avant, bah, si on les avait refait 5 ans plus tard, ils auraient été massivement, on n'aurait pas mis du Oracle, on aurait mis du MySQL, on n'aurait pas mis du Sun, on aurait mis du Linux, etc.
Et donc, à l'issue des 5 ans, la société aurait peut-être vécu, c'est ça?
Et non, alors ça aurait peut-être pas changé forcément grand chose, mais en tout cas, ce qu'on aurait fait différemment,
ça aurait été des orientations,
voilà, techniques différentes. Ça aurait pas forcément changé son business, son business pour autant. On faisait des statistiques, nous, en fait, hein, la société où j'étais avant. Et elle a fini chez Nielsen, dans une boîte de statistiques. Et donc, en fait, je m'étais dit, y a quand même quelque chose qui se passe au niveau déjà technologique. Et donc, ça m'a amené à le faire en libre. Après, j'ai fait le logiciel et alors, après, on faisait un logiciel applicatif. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de technologie libre. Il s'agit d'une application libre. Et ça, c'est un métier qui est différent. Et d'ailleurs, enfin, les logiciels libres, ils gagnent beaucoup, typiquement Linux, etc. Bon, après, tout le monde n'en vit pas forcément. Donc, tous les gens qui ont créé ces logiciels libres, ou la Fondation Apache, tous les modules qu'on peut trouver chez la Fondation Apache, il n'y a pas forcément des entreprises derrière à chaque fois qui sont derrière chacun des logiciels. Maintenant, sur un applicatif, on est encore sur autre chose. On est sur quelque chose qui va être mis dans les mains des utilisateurs. On n'est pas sur une brique logicielle utilisée par les autres éditeurs de logiciels.
Tout à fait.
Nous, on s'adresse directement à un utilisateur final. Et alors, ça a été un challenge. Et donc, on l'a développé en libre. Ça m'a permis déjà. Alors, c'était un modèle de développement et d'interaction avec les utilisateurs et les autres développeurs pour comprendre est-ce qu'on faisait un bon logiciel.
Et la communauté, donc, du coup, qui pouvait, émerger autour de ce logiciel.
Ça a beaucoup bien marché dès le début. Et j'ai eu des contributions, j'ai eu des gens qui m'ont aidé. Des gens, voilà, ils trouvaient ça intéressant. On dit, je peux aider, je peux faire un bout du logiciel. Au début, j'ai eu beaucoup d'aide. Et ça a doublé, triplé les capacités de développement des premières années. Après, quand j'allais face aux clients, la problématique libre était
pas... Alors tu
vas
trop vite, parce que là tu passes déjà au moment où tu avais créé la société autour de ce logiciel. Quel type de société ?
Alors, une société normale.
D'accord.
SAS, ouais. À l'époque SARL, maintenant c'est une SAS.
Absolument.
Société normale m'appartenant. Voilà.
Avec quelle cible en fait ? Les entreprises, les particuliers,
l'entreprise. Nous, c'est une cible vraiment entreprise, c'est-à-dire le logiciel. Alors, j'avais regardé un peu est-ce qu'on peut faire des wikis publics sur internet et j'avais éliminé un peu cette possibilité.
Désolé, je trouvais.
Voilà,
on fait une parenthèse.
Ouais,
une petite parenthèse.
Bon, oui, c'est les 20 ans de l'April, donc normalement, on va être interrompu.
Voilà.
Allez, on revient en direct avec. Enfin, on était déjà toujours en direct d'ailleurs, mais on revient dans le vif des sujets intéressants quand même. Pardon ? Non, ça va. Je vais pas m'asseoir, je vais rester debout. Ça me rappelle la place de la République, tout ça, c'était plutôt sympa. Mais je t'entends pas, Clara.
Ah, c'est normal, ouais. J'avais oublié le micro.
Ouais, ah, c'est pour ça.
La chute.
Forcément, ça marche pas bien.
Non.
Ouais. Oui, on pourra retenir de cette soirée de l'April quand même l'excellent choix de bière.
Oui, efficace.
Efficace, absolument. Ludovic, on reprend.
Oui.
Alors, on en était au moment où, en 2004, après un an de développement du logiciel, c'est ça, hein ?
Ouais, quelques mois en fait, non ?
Ah, quelques mois, carrément.
Alors, le développement a commencé, en août-septembre.
D'accord, ok.
Et puis la boîte a été créée en juillet, 9 mois.
D'accord, avec donc un wiki, XWiki.
Oui.
Ok. Avec une cible entreprise.
Entreprise.
Donc, j'imagine qu'il y a tout un discours autour de l'intérêt qu'une entreprise pourrait avoir à. Acquérir ce wiki. Alors c'était quoi le discours ? C'était collaboration entre les différents...
Mieux gérer l'information dans l'entreprise.
Alors qu'est-ce qui vous différenciait d'une JED par exemple ?
Alors justement, un des points c'est d'essayer de faire sortir les gens de la JED. En fait la JED est...
Bon, explique aux auditeurs de LibreToi qui savent pas ce que c'est qu'une JED.
Et à moi aussi parce que j'ai...
Et à Clara non plus.
JED, gestion électronique de documents, c'est-à-dire ça consiste à... Oui. Alors déjà c'est assez avancé hein, parce que en fait l'entreprise moyenne, elle a même pas de JED. Elle a des fichiers qu'elle échange par mail.
Ah, Absolument.
Et malheureusement, on est en 2017 et c'est encore le cas.
Et le leader de la GED reste Alfresco aujourd'hui.
Ouais, alors c'est Alfresco maintenant. Ouais. C'est Alfresco maintenant en GED ou Nuxeo qui marche pas mal aussi.
Ouais,
mais Alfresco est probablement un des plus importants. Mais en 2004, il n'y avait même pas de GED. Il y avait un peu de SharePoint. Ça commençait.
Ah, déjà?
Ouais, je crois qu'il y avait un truc.
C'était Microsoft.
Microsoft
ils étaient forts.
Proposait déjà de la gestion de vos fichiers en ligne.
Ouais.
Mais même ça, à la rigueur, il y a encore beaucoup d'entreprises. Alors déjà, quand les entreprises ont SharePoint, ils l'utilisent pas tant que ça en fait. C'est-à-dire qu'ils sont pas très contents et ils continuent à s'échanger tout par mail.
C'est vrai.
Donc la vraie,
avoir un Drive Google.
Voilà. Excusez-moi.
Alors maintenant, il y a le Drive Google.
Vous parlez un peu geek. C'est comme le cloud.
Ça peut être en cloud.
Ça peut.
Voilà, mais à l'époque ça l'était pas. Hein. À l'époque c'était un disque partagé sur le réseau local.
En fait c'est un système de centralisation de la documentation.
D'accord. Ah okay. Oui, mais si, mais je connais parce que j'ai bossé en entreprise.
C'est vrai. Avant d'être exploité par le laboratoire, t'as bossé.
Non, mais on avait c'était le dossier public.
C'est ça. Le dossier public dans lequel on met des fichiers. Et on crée des sous-dossiers, des dossiers, des sous-dossiers, et on met des fichiers. Et alors le problème de ça, en fait, c'est que ça fait des silos d'informations. En fait, chaque fichier est une sorte de mini-silo.
Ouais.
Les gens ne sont encouragés à créer un fichier que s'ils ont une quantité de contenu non négligeable à mettre dans le fichier. Et ils vont pas mettre une phrase. Donc ils vont pas faire un document avec un paragraphe. Mmh. Ça n'a pas de sens. Alors ils vont le faire par mail quand ils font ça. Et alors ça crée plein d'informations disparates, envoyées un peu partout. Et puis après, de temps en temps, des gros fichiers, mais qui sont pas connectés entre eux.
Mais du coup, c'est la dispersion des compétences aussi.
Et derrière, c'est la connaissance.
La connaissance.
La compétence, c'est encore peut-être autre chose, mais c'est ce fait de savoir qui sait faire quoi dans la boîte, etc. Mais c'est vraiment la dispersion de la connaissance. Il y a des gens qui savent des choses, ils vont les mettre éventuellement dans des fichiers. Puis de toute façon, en fait, rapidement, avec les fichiers, les gens sont découragés d'aller regarder dedans.
C'est clair.
Donc, ils ont les fichiers, ils sont là. On les a créés à un moment donné, mais personne ne va jamais regarder dedans parce qu'ils sont découragés sur le fait qu'on les trouve. Alors après, les entreprises ont investi beaucoup dans les moteurs de recherche pour essayer de rendre ça un peu meilleur. Mais en fait, ça ne marche pas tant que ça. Et alors, les wikis, ils cassent un peu ce système-là. Et ils arrivent sur l'idée de dire, bah vous allez déjà être plus encouragé à créer peu de contenu rapidement et à le faire collaborativement, à faire évoluer le document que les autres créent. Et ça fonctionne vraiment. Et moi, je l'ai vu fonctionner avant de... En fait, en faisant un système documentaire avant et en mettant dans mon équipe un système de wiki. Et c'est ça qui m'a encouragé à créer des wikis. Alors après, dans XWiki, on a rajouté un peu d'innovation là-dessus. C'est-à-dire que... En fait, moi, je me suis rendu compte que c'était sympa le document en lui-même, mais on voulait aller un peu plus loin sur l'information. En fait, à un moment donné, il faut se dire le document, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de l'information. Et information égale pas document, en fait. Et l'information, finalement, elle peut être structurée.
Mmh.
Typiquement, pour donner un exemple de ce que ça veut dire une information structurée, c'est si j'ai un projet. Un projet a un chef de projet. Un projet a une date de début, une date de fin. Un projet est actif ou pas actif. Et ça, dans un document, cette information est très mal, très difficile à accéder. Et alors dans XWiki, on a fait un système qui permettait de structurer cette information et de la rendre accessible. Et donc on a dit, on va mettre l'information, mais sous des formes différentes de uniquement un document texte.
Donc vous avez réinventé le Gantt.
C'est pas
les
tout à fait.
C'est pas le Gantt.
Parce que le Gantt, c'est les tâches avec le suivi des tâches, etc.
Ouais. Ça veut dire quoi, Gantt?
Gantt. Les diagrammes de Gantt. C'est dans la gestion projet. On fait des tâches et on fait un planning, etc. Mais. Pourquoi la structure d'information, c'est...
J'en avais installé un pour Libratoire, personne ne l'a utilisé. Hein.
Ouais.
Ah, ça s'appelait pas comme ça, ça s'appelait YouKnowHost. Et moi, je m'en suis servi. Je suis désolée, mais j'étais quand même la seule à tenir l'agenda à jour.
C'est vrai.
Et je trouve ça vachement pratique.
En fait, il y avait un module dans YouKnowHost.
Voilà, le truc, c'est qu'à 3, l'agenda, tu te le dis, t'as pas besoin d'avoir une...
Alors, ça dépend combien on est, hein, parce que tout ça, ça devient intéressant quand on commence à être un peu plus nombreux.
On s'est fondé comme une multinationale, mais en fait on était trois. Donc.
Ouais. À trois, c'est vrai qu'on peut discuter sur l'intérêt des wikis. Mais quand on était trois, on a utilisé des wikis, mais c'est parce qu'on se disait effectivement qu'on allait être un peu plus que trois plus tard. et que ça allait être une information intéressante et importante pour les autres. Mais donc si on prend un, on fait une liste de projets, en fait dans un wiki on va créer une page, on va mettre la liste des on va créer des pages projets et, on va, et chaque page va avoir un, une, chaque projet va avoir une page. Mais au bout d'un moment on se dit mais attendez, mais lesquels sont encore actifs? Donc finalement, alors là, manuellement, on dit bah, je vais mettre ceux qui sont actifs au début, je vais éditer la page pour mettre ceux qui sont inactifs à la fin. Puis au bout d'un moment, j'en ai marre de le faire tout le temps, de le faire moi-même. Et donc, l'information structurelle va permettre de faire ça de façon automatique. C'est-à-dire, bah, finalement, les projets, il y en a des actifs, des inactifs, je vais les éditer en éditant la donnée sur le fait. Et la page d'accueil va automatiquement me trier les projets en fonction s'ils sont actifs ou inactifs.
Mais alors du coup, alors j'entends bien hein, tout l'intérêt que peut avoir ce type de logiciel pour l'entreprise. Donc depuis 2004, on est en 2017 aujourd'hui. Est-ce que tu as le sentiment que ceux qui ont été les plus intéressés par ce type de logiciel finalement concernent toujours une typologie de boîte ou, parce qu'on sait très bien toi et moi que ça peut concerner toutes les sociétés en fait.
Oui.
Tout type de production, tout type de... Est-ce que t'as noté que c'était plutôt des sociétés de numérique ou informatique ou des administrations ou comment ça s'est distribué?
Alors,
en fait
bon il y a eu des phases en fait alors d'abord au début on a mis le logiciel, il y a des gens qui les premiers clients ont été des gens qui avaient un peu des problématiques un peu qui s'intéressaient au wiki, qui avaient quelque chose d'un peu compliqué à faire.
Ouais. Et
donc ils nous ont demandé d'améliorer le logiciel.
Donc plutôt de la gestion de projet un peu complexe.
Ouais, ou non, bah, pas forcément.
Non.
Ça pouvait être même des... Alors les tout premiers projets, ouais, ils avaient même presque rien à voir avec le wiki.
D'accord.
Ils nous ont permis d'améliorer le logiciel, et, mais pas forcément dans notre objectif à nous. On faisait quelque chose pour eux et on se faisait payer pour le faire,
ouais,
et ça nous a permis de financer un peu le logiciel. Et puis autrement, il y avait quelques fans de Wiki qui voulaient qu'on leur mette la connexion à l'annuaire de l'entreprise, ce genre de choses.
D'accord.
Donc on a, c'est les premiers types de projets qu'on a fait.
Donc c'était quoi, vous réinventiez LDAP là à ce moment-là?
On connectait à LDAP,
okay.
On connectait à LDAP, etc. Donc c'est un peu les premiers projets qu'on a fait. Après, on a eu des alors après les geeks sont plus à l'aise avec les wikis. Maintenant, nous, ce qu'on a vu, c'est que en open source, les geeks, c'est pas des gens qui allaient nous payer.
Malheureusement, non.
Ils prenaient le logiciel et ils le mettaient. Et donc, en tant qu'entreprise, on s'est plutôt adressé aux non geeks. C'est-à-dire démocratiser, amener le wiki vers des usages non geeks, avec les problèmes que ça peut poser. Donc au début, par exemple, on s'est beaucoup battu sur la syntaxe wiki versus le
ouais.
WYSIWYG.
Ouais.
Et avec le WYSIWYG, c'est pas important au début, puis finalement, si c'est important.
Bah oui.
C'est-à-dire que si on veut que ça soit mis dans les mains des
si
non-techniques,
tu veux que tous les employés d'une entreprise l'utilisent.
Il fallait du WYSIWYG.
Ouais.
Au début, on était un peu réfractaires à se dire mais il n'y a pas besoin, et finalement on l'a fait et on a beaucoup investi sur ces aspects là et donc on s'est adressé de plus en plus à des gens qui n'étaient pas forcément très connaisseurs de wiki, et on leur a offert des solutions à base de notre logiciel. Et alors plutôt des grandes entreprises, mais maintenant on s'adresse de plus en plus à des plus petites.
Alors revenons un petit peu, Ludovic, au modèle économique.
Oui.
Comment ça marche, ta boîte? Tu as donc... Non, c'est pas grave, Clara, tout va bien.
Il y a beaucoup d'animation.
Ouais, ouais. Bah oui, mais en même temps, c'est direct, c'est comme ça. Donc t'as t'as ton soft là. Si alors il est versé où, le code d'ailleurs?
Alors il est sur GitHub.
D'accord.
Il est disponible sur xwiki.org.
Ok. Alors est-ce que le code qui est versé sur GitHub intègre toutes les évolutions que vous avez produites pour vos clients ou pas?
Alors quasiment tout.
Ouais.
Et quand elles le sont pas, c'est pas pour des raisons de pas vouloir le faire. C'est pour des raisons qu'elles sont pas mûres pour être partagées.
D'accord.
C'est-à-dire, elles sont trop spécifiques, trop faites à la va-vite pour être mises dans le cœur du logiciel. Donc nous on fait tout en 100% libre. Et on se garde pas de parties non libres.
D'accord. Parce que il y a des exemples, par exemple Dolibar aujourd'hui qui est un CRM open source. Il y a tout un tas de modules en fait qui sont qui ont été développés par les équipes de Dolibar pour certains clients qui ne sont pas libres du coup.
Oui,
alors attention, je critique pas forcément le modèle, hein. J'ai aucun problème avec ça.
Alors on s'est beaucoup posé la question, nous. Hein.
Vous avez un joli site, xwiki.
Bah, j'espère.
Non, il est sympa votre site. Vous le développez en interne?
Il est fait avec xwiki.
C'est vrai?
Oui. On peut faire ça avec des wikis. Hein.
Ah, mais je vais vraiment m'intéresser à ton soft, ouais. Ludovic.
On peut faire beaucoup de choses avec xwiki.
Non, il est très joli. Ouais.
Donc on utilise notre propre logiciel pour faire nos
pour
sites.
D'accord, pour développer. Ouais. Ok.
Et
non, c'est efficace pour un... Ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse faire ça avec un wiki.
En fait, dans xwiki, il y a beaucoup de flexibilité. On peut modifier l'interface. Il y a pas mal d'aspects innovants. Au-delà d'être un wiki, on va dire state of the art.
Ouais.
Mais en fait, c'est un framework de développement en plus d'être un wiki.
Alors, c'est quoi la techno derrière? Et après, on reviendra
au... C'est du Java.
Oh
hein, les gens, ils n'aiment pas. Alors, c'est du Java, mais avec un langage de script dedans. Donc, quand on veut modifier xwiki, on a un langage de script pour le modifier. C'est comme PHP, mais ça marche mieux.
Ok, bon, ok, je regarderai ça et je t'enverrai un petit mail.
Pas de problème.
Vas-y, raconte-moi le modèle économique.
L'histoire du Java, c'était aussi d'abord
oui, bah,
moi
je venais
du Java et l'objectif c'était d'adresser l'entreprise et d'être acceptable pour les DSI. Et nous, ma vision, c'était que avec PHP, ça n'allait pas être le cas.
En fait, le problème, c'est que tu viens des applications métiers et elles sont toutes en Java, en fait.
C'est ça.
Ouais, ouais, je comprends.
Non, je venais plutôt de l'entreprise qui fait des développements spécifiques.
Non, mais tu m'as parlé d'applications métiers, parce que c'était ça, ton...
Statistiques, etc.
D'accord. Donc, le modèle éco. Alors, comment vous faites?
Alors, d'abord, on a commencé principalement par le service. Ensuite, et notre objectif, c'est de faire surtout du support. Et alors, dans le modèle éco, l'élément le plus important, c'est la criticité du logiciel.
Ouais.
Alors, je veux être très clair, il faut faire attention, tous les business, tous les types de logiciels ne peuvent pas avoir le même modèle économique. Donc, ce que nous on fait est valable pour notre cas. Et notre cas, c'est qu'on a quand même un logiciel qui n'est pas grand public, mais qui est toutes les entreprises. Donc on n'a pas une niche particulière et ce genre de choses. Toutes les entreprises peuvent utiliser xwiki potentiellement. Et donc on a une problématique de diffusion qui est très importante. C'est-à-dire il faut essayer d'être le plus diffusé possible. Donc ça c'est une chance pour nous quand même, le fait de pouvoir être massivement utilisé par n'importe qui. Ça veut dire qu'on peut utiliser le modèle de j'ai X gratuit et puis j'ai un petit pourcentage payant. Et donc c'est ce qu'on fait sur le support. Et le deuxième élément qui est important justement pour vendre du support, c'est est-ce que ton logiciel va être critique. Et notre logiciel, il peut être critique. Une fois qu'on a l'information de l'entreprise dedans, il est critique. Et donc on vend du support. Donc aujourd'hui, xwiki fait plus de 50% de revenus de support. Donc on est même à 60% de revenus de support sur 2016.
Ce qui est bien, par rapport au modèle, c'est assez efficace, quoi.
Et rapport au modèle, ça commence à être pas mal. Mais ça a monté tout le temps, mais au début, c'était plutôt du revenu de service. Et dans le revenu de service, d'ailleurs...
Oui, alors qu'est-ce que t'intègres dans le revenu de service?
Alors, il y a deux types de revenus de service. Il y a celui qui contribue à la R&D.
D'accord.
Et il y a celui qui est plutôt du spécifique pour le client et qui ne contribue pas à la R&D.
Ok.
Et en fait, on en a dans le revenu de service, on a des choses qui contribuent à la R&D.
Et ça, c'est ce qui est versé dans le code public.
Et on le reverse dans le code public. Et alors, en même temps, je vois un petit icône Amazon méchant.
Ouais.
Alors pour nous, Amazon, ils sont gentils parce que ils sont gentils, pas pour tout ce qu'ils font, mais en tout cas pour nous, ils sont gentils parce qu'ils nous ont payé 150 000 euros de développement. Sur xwiki, donc ils sont un peu sympas. Et donc ça c'est des choses qu'on a fait, y compris avec des boîtes américaines. Peut-être même plus avec les boîtes américaines qu'avec les boîtes françaises. C'est-à-dire qu'on a eu du financement de R&D. finance.
Mais ce qui moi ne m'étonne pas quand je vois que Google finance énormément de logiciels libres, ou en tout cas reverse énormément de code. Tiens, d'ailleurs je lisais une news cet après-midi où Google allait souhaiter que son algo d'intelligence artificielle soit versé dans le code public.
Non, et alors il contribue énormément à l'open source. Alors,
OpenSSL, merci Google.
Il donne de l'argent et il y a des grosses boîtes américaines qui donnent. Alors maintenant, en pourcentage de leurs revenus, c'est pas énorme. Mais par contre, Google est probablement un des plus gros contributeurs de l'open source. Et pour nous, ils ont été gentils aussi parce qu'on a participé au Google Summer of Code. On a eu des financements et des ingénieurs pour notre logiciel. Donc on s'en plaint pas. Et on a été assez content.
Aujourd'hui, tes financements, ils viennent d'où ? Est-ce que ton capital, il est ouvert ? C'est quoi ton type d'actionnariat en fait dans ta SS ?
La société appartient à ses employés et ex-employés.
Ok.
Moi, j'ai 65% aujourd'hui. Et le reste, c'est d'autres employés. Notre CTO a 20 et quelques pourcents. Puis le reste, c'est des employés et ex-employés. On a fait un choix à un moment donné. Alors à un moment donné, je me suis posé la question de la levée de fonds et j'ai regardé. Et en fait, quand je présentais notre modèle, le problème c'est que j'avais un sentiment que ce que je leur racontais, ça leur plaisait pas. C'est-à-dire que, en gros, si je leur disais pas, je suis là pour faire du pognon et je vais faire de l'open source au début, puis en fait, à un moment donné, je vais trouver les moyens de monétiser comme un malade. Ça collait pas. Si j'expliquais que on va faire quelque chose de très ouvert, etc., ça passait pas. Et donc, à un moment donné, je dis bon, allez, ça suffit, et on a arrêté de se dire qu'on allait lever des fonds. Et on a décidé de se développer plutôt plus progressivement. Et en même temps, on a découvert les projets de recherche. Projets de recherche français, projets de recherche européens. Et en fait, ça représentait beaucoup d'argent de financement chez XWiki. On a déposé des demandes de projets de recherche. Et en fait, j'ai découvert ça grâce à quelqu'un, un externe, qui est venu me chercher en fait au début, qui me dit tiens, tu veux pas participer à un de nos projets en tant qu'XWiki? Et je dis oui, super, on y va. Et puis après, on a vu comment ça fonctionnait. Et maintenant, on participe à de plus en plus à des projets régulièrement, et ça nous représente 30% de notre financement.
Pas mal.
Donc ça a été extrêmement important dans notre R&D. Quand on combine ça avec le financement de la R&D que les clients apportent, ça nous permet de financer des équipes permanentes sur le logiciel.
Donc aujourd'hui, Ludovic, depuis 2004, 35 collaborateurs, tu m'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu es serein par rapport à l'avenir? Est-ce que tu vois des écueils? Quelles sont les perspectives?
Alors, XWiki, c'est globalement une entreprise assez stable. Elle est capable d'équilibrer ses comptes à tout moment. Ce qui est plus compliqué, c'est dire comment on peut accélérer. Ça dépend.
Je sais pas, c'est une question très conne que je te pose. Mais...
Honnêtement, je sais pas. On peut devenir obsolète. C'est un risque. On le sait pas. C'est un élément de risque. Et ça, je suis pas tout à fait capable de dire. Est-ce que on risque l'obsolescence? Ce que je sais, c'est qu'on est capable assez facilement d'équilibrer nos comptes et de jouer. En fait, l'enjeu est plutôt de savoir à quel point on investit. C'est-à-dire que si on veut réduire et faire de la marge, on peut
d'ailleurs
en faire.
Ton niveau d'investissement, il est comment par rapport à ton.
Nous, notre fonctionnement, c'est qu'on dépense ce qu'on vend.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en gros, si on planifie de vendre pour 1,5 million, on va équilibrer le budget à 1,5 million, plus les projets de recherche.
Okay.
Donc, okay. Et la problématique va être plutôt une problématique de trésorerie. Donc, on essaye, en gros, après, on va chercher un peu de trésorerie, d'emprunt pour y aller. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu des emprunts, des prêts de banque, etc., pour essayer d'être un peu plus agressif que juste attendre d'être sûr d'avoir l'argent pour faire. Maintenant, ça, dans les 10 années, c'est resté tendu. C'est-à-dire qu'on a des moments où il n'y avait pas grand-chose sur le compte et je me disais, est-ce qu'il y a des dangers si un client ne paye pas ou, voilà. Mais globalement, ça, on en est un peu sorti. Mais c'était plus une problématique de croissance. C'est-à-dire
ouais,
que
je comprends.
Du fait de croître, on a beaucoup d'argent chez les clients.
C'est le problème. Ouais.
Et
ouais.
C'est une des difficultés, il faut du cash.
Absolument.
La réalité, c'est qu'on a du cash, mais il est chez les clients. Voilà, c'est un peu ça. On a mis de l'argent de côté régulièrement, mais il est chez les clients.
Alors, tu parlais du risque du coup de l'obsolescence.
Oui. Alors, on a un risque d'obsolescence à tout moment sur ce qu'on fait. Il faut mettre à jour la technologie, mais on le fait régulièrement. Par exemple, nous, il y a deux, trois ans, on a mis Bootstrap. Alors qu'on avait commencé en 2004,
tes clients, ils peuvent manipuler la plateforme Wiki que tu leur as installée sur leur mobile.
Voilà, exactement.
Ouais.
Et donc,
Est-ce qu'il y a une application ?
Ça encourage les clients à upgrader.
Est-ce que vous avez fait une application?
On a fait un proto d'appli mobile, mais on n'est pas très content de l'application qu'on avait fait. Et pour le moment, nos clients sont plutôt satisfaits de l'aspect responsive. D'accord. Et ça leur suffit en fait pour ça. Mais on peut être obsolète. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les wikis, nous on est petits. On a à peu près 3000 installations.
Ouais, c'est qui vos concurrents d'ailleurs?
Alors c'est Atlassian, c'est Confluence, qui est présent chez tous les développeurs et qui ont a priori au moins 35 000, 40 000 installations actives. Voilà, et nous on a 3000 installs payantes gratuites.
Okay.
Alors, eux ils ont 40 000 installs payantes. Donc on a de la marge de manœuvre quoi. En termes de. Donc le risque c'est d'être complètement obsolète, mais par contre technologiquement on se sent pas mal face à Atlassian.
Je trouve ça imbitable Atlassian, hein, franchement.
Il y a des gens qui se plaignent que. Voilà. Mais c'est peut-être aussi parce que chez Atlassian, ils ont tellement de logiciels maintenant que c'est plus que Confluence, c'est pas forcément leur truc le plus important. Alors que nous, XWiki, c'est notre truc, quoi.
Ouais.
Et moi, mes équipes, elles bossent que là-dessus et on commence à nous dire que en fait, c'est plus simple qu'Atlassian. Mais on a beaucoup travaillé. Il a fallu travailler beaucoup. Par exemple, l'UX, ça a été un vrai problème.
Ouais.
Et dans le logiciel libre, c'est une vraie
c'est
difficulté.
C'est un problème du logiciel libre.
Tout le monde le voit.
Bah oui,
mais on l'a eu, mais nous, on a une ingénieure UX permanente chez XWiki. Et elle a un boulot de malade. Elle a un boulot de malade. Parce que, en fait, elle a fait. Il y a une époque, elle sortait 10 propositions par an, on en développait une. Parce qu'on n'avait pas les moyens de les mettre dans la roadmap et ce genre de choses. Donc c'est un travail important et qui est compliqué. Donc nous, face à Atlassian, le problème c'est le volume.
Clara veut poser une question.
Oui.
Non, pas non. Du tout. Elle me faisait des signes.
Non, je voulais dire à Ludovic que je vais rapporter une part de gâteau et qu'elle était pour toi.
Ah oui, non mais le problème c'est parler et manger.
Oui, c'est sûr.
En plus, il parle beaucoup, Ludovic. Hein.
Oui, je suis un peu trop bavard.
Non, mais en même temps.
Je m'attendais pas forcément à que tu me poses autant de questions sur le modèle économique. Je trouve ça passionnant.
Ah bon,
non,
quand même.
En fait.
Non, mais ce sont des professionnels qui sont en face de toi. On fait pas de la radio pour se faire plaisir.
Non, mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez traité.
Ah, mais clairement.
Mais peut-être aussi c'est parce que vous n'avez pas assez de gens qui viennent vous en parler, peut-être.
Non, pas
non,
du tout. Je fais ça à chaque fois. Moi, j'ai posé les mêmes questions à Stallman. Hein.
Ouais, très bien.
Le modèle économique, tout ça.
Le modèle économique de Stallman, c'est quoi?
C'est
faire
lui.
Des conférences.
C'est son succès.
C'est son nom.
Voilà.
Donc j'ai bien compris, un UX designer, ok, à temps plein. Donc c'est bah, évidemment, c'est
non,
essentiel.
Mais il faut être compétitif et c'est ça qui est pas évident parce que l'open source, ça suffit pas.
Ouais, ouais.
Il faut être compétitif.
Alors justement, ton équipe de 35, elle se distribue comment? T'as combien de commerciaux, combien de devs? Comment ça se passe?
Alors on doit être 70-80% de devs.
D'accord.
De techniciens.
Et la communauté continue de...
Oui. Alors on a de la contribution. Alors c'est compliqué pour la communauté de suivre une fois qu'il y a des permanents. C'est pas évident.
Ouais.
Mais on en a sur les extensions.
Là, j'ai vu sur GitHub dernière version de code il y a 7 heures, hein, donc ça y va. Hein.
Ah ben les développeurs ils bossent. Hein.
Ah ouais, non,
surtout on a fait 9.0, on a sorti la 9.0 RC1 là.
Ok.
Donc ils sont là, la 9.0 va bientôt sortir. Donc non, ben les développeurs ils bossent en permanence. Surtout qu'on descend les cycles à un mois maintenant.
Ah oui, mais alors c'est quoi, vous êtes en agile ou c'est comment ça
bah
se passe?
Bah oui, c'est ouais. De l'agile, ouais.
Ouais, ouais.
C'est de, on peut dire ça.
Il y a des forks d'XWiki que vous suivez ou pas?
Non.
Non.
Non, non, il n'y a pas de fork.
Ok.
Y a, bah si, Amazon a son fork. Non.
Mais bon, ils vous ont payé 150 000 dollars pour ça.
Ils peuvent.
Ils peuvent forker. Ok.
Donc ils ont non il y a pas bah il y a des forks sur les modules à droite à gauche mais non il y a pas de fork. Il y a pas mal de contributions sur les vas-y sur les bugs, sur les remontées du produit sur les fonctionnalités. Il y a aussi des en fait on a un modèle très ouvert, donc même si finalement dans le cœur il n'y a pas tant de contributions que ça, tout notre modèle de développement est en ouvert, et donc ça veut dire que tout est proposé. Même si c'est nos équipes qui ont décidé de le faire, et il y a des reviews et des avis qui sont demandés, et il y a des utilisateurs avancés qui répondent. Donc on a des utilisateurs d'XWiki qui régulièrement participent.
Très bien.
On a aussi des gens autour. Là, par exemple, en ce moment, on a un gars qui contribue sur. C'est un peu celui qui a commencé à faire les modules Docker.
D'accord.
Pour installer XWiki.
Ah bah oui. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de Docker de XWiki, vous êtes has-been. Hein.
Ouais, exactement. Mais maintenant, il y en a. Donc ça va. C'est plutôt bien.
Et, ouais, ça me gonfle donc, Docker, mais bon.
Ouais. Commence à être pas mal. Bah, c'est assez pratique quand même. Hein.
Ouais, non, mais c'est pratique, mais
c'est compliqué.
Après, tu maîtrises rien quand tu veux gérer ton truc.
On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On ne sait pas trop où il a foutu les data.
Ah non, c'est l'angoisse.
Et donc c'est un peu
non,
compliqué.
En termes de maintenance, hein, là j'ai pas compris moi. Bref, mais j'ai laissé tomber.
Après, ça dépend si on l'utilise pour du dev ou pour de la prod.
Non, mais voilà, pour du dev, je pense que c'est génial. Effectivement, tu déploies ton pool de machines, c'est génial. Ouais. Mais pour de la prod, je vois pas l'intérêt. Quoi.
Ouais. Et donc, on a un gars qui a contribué. Il a commencé à faire un module Docker, etc. Et là maintenant, il fait des migrations MediaWiki de son wiki. Il contribue, il discute ce qu'il a réussi à faire, pas réussi à faire. Et finalement, ça c'est très important pour l'amélioration du logiciel, d'avoir des utilisateurs un peu experts.
Oui, absolument.
Qui sont capables de vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien dans le logiciel, ça a une vraie valeur. Ça a une vraie valeur, et c'est moi ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est le contact direct que ça fait aussi entre le développeur et les utilisateurs. Parce que finalement, le modèle un peu classique, c'est le marketing qui dit aux développeurs ce qu'ils vont faire. Le problème, c'est qu'il y a une déperdition assez importante. Et si on peut augmenter la compréhension utilisateur des développeurs, on fait des meilleurs logiciels.
C'est clair.
Et ça, c'est un élément qui est important. Nous, on est une société qui n'a pas beaucoup de marketing, qui n'a pas beaucoup de moyens sur la remontée des utilisateurs. Alors, on a nos équipes de projets clients qui sont en contact avec des utilisateurs. Mais après, il faut qu'ils viennent remonter l'information aux développeurs, ce qui n'est pas forcément évident. Et ce qui n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Donc le fait que les développeurs aient quand même des gens en face d'eux qui leur disent tiens là il y a un bug, etc., ça aide à l'amélioration de la qualité du logiciel.
Alors avant de conclure, Ludovic, juste on va revenir un petit peu en arrière concernant les risques et surtout les perspectives. C'est quoi demain? Comment tu... T'es le président de XWiki quand même, fondateur. C'est quoi demain?
Alors
XWiki,
déjà il y a
comment
le cloud.
Tu le vois?
Alors parce que le support est un modèle de revenu très important. Après, sur les petites sociétés, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas si simple de vendre des petits contrats de support. Les clients, ils savent pas bien s'ils en ont besoin. Donc, par contre, sur les petites sociétés, ce qui est vraiment un modèle intéressant, c'est le cloud. Et une des questions qui
donc
se pose,
donc l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Hein.
Oui, l'ordinateur est quelqu'un d'autre, le nôtre, celui d'OVH. Celui d'OVH.
Ouais.
Et donc c'est d'offrir XWiki en cloud, donc ça on le fait. Et aujourd'hui on commence à avoir des sociétés plus petites qui viennent. Et toute la difficulté dans notre cas.
Donc en SaaS, en fait c'est du SaaS.
C'est du SaaS, oui, c'est du SaaS.
Okay.
Et toute la question, c'est comment on peut les accompagner à avoir du succès avec XWiki.
Ça veut dire quoi pour une boîte d'avoir du succès avec HitWiki?
Ils ont un peu l'angoisse de la plage blanche quand ils démarrent un wiki. Et on doit leur donner les moyens de bien comprendre l'outil, comment l'utiliser. En fait, un logiciel collaboratif, ça se met pas en œuvre comme ça. C'est pas du jour au lendemain.
Non, absolument.
Et donc, si on veut que les petites sociétés puissent le mettre en œuvre, il faut qu'on leur donne les moyens à coût relativement bas. De mettre en œuvre le logiciel avec succès. C'est pour ça on a pris 10 ans à l'amener aux petites sociétés. Ça commence à être fait de plus en plus. C'est-à-dire que autant vous filez Google Drive aux gens, ils ont des fichiers, ils comprennent, ils les mettent, et puis après c'est le bordel au bout de 6 mois.
Oui, c'est clair.
Le wiki, il faut expliquer un peu comment l'utiliser, qu'est-ce que vous devez faire et pas faire, etc. Et donc on travaille beaucoup là-dessus, donc on espère vendre de plus en plus aux plus petites sociétés et en cloud. Et pour l'open source, on pense que c'est un modèle de revenu extrêmement intéressant. Le cloud est un vrai modèle de revenu pour l'open source, tout en restant open source. Alors après, tout à l'heure, on parlait des modules payants. Donc nous, on n'a pas de module non open source. Par contre, on se pose la question de modules payants. Open source.
Oui, j'entends bien.
Open source, mais payant.
Oui, je comprends.
On en a lancé un module Active Directory.
Ouais.
On commence par des modules qui sont liés au logiciel propriétaire. C'est une solution assez simple.
Ouais, ouais.
Si finalement vous utilisez le logiciel propriétaire, pourquoi pas payer.
Mais du coup, qui est l'acheteur ?
Celui qui en a besoin.
Ouais.
Voilà. Après, ce qu'on pense, c'est que si on veut vendre des modules payants, il faut avoir un gros volume d'install.
Oui.
Et donc, on pense qu'on les a pas forcément encore. On a encore du boulot avant d'arriver à ces niveaux-là. Mais il y a des boîtes comme PrestaShop,
PrestaShop
qui sont assez efficaces sur ce modèle des modules payants, pas cher, modules payants pas cher. Et donc, on s'est posé
cette
question.
App Store, quoi.
Voilà. On a un App Store en fait. Mais dans notre App Store, il y a beaucoup de modules, tout est gratuit. Et tout est open source. Et on s'est dit, peut-être qu'on aurait dû en faire un peu plus payant pour générer des modèles de revenus. Alors moi, une de mes bagarres, justement, c'est d'expliquer aux gens que l'open source, c'est pas gratuit.
C'est pas gratuit.
Et d'expliquer cette différence. Mais même chez nos développeurs, c'est pas évident. Quand je leur dis qu'on va faire des modules open source payants, ils comprennent pas tout à fait. C'est-à-dire, pourquoi on les met pas propriétaires dans ce cas-là ? J'ai dit, mais non, parce que justement, c'est pas la même chose. C'est pas une question d'open source.
C'est quoi le profil de tes développeurs, du coup, justement ?
C'est des développeurs. Alors, ils sont passionnés par l'open source.
Ouais. Tous.
Oui, quand même. Par contre, pas forcément quand ils sont arrivés.
D'accord.
Quand ils sont arrivés dans la boîte, ils n'étaient pas forcément spécialement. Ils n'avaient pas forcément compris comment ça fonctionnait.
D'accord.
Voilà. Mais ils sont assez passionnés. Alors nous, on a la moitié de la boîte en Roumanie.
D'accord.
Et donc,
les devs sont en Roumanie en fait.
Non, ils sont partout. Ils sont partout.
D'accord.
C'est mélangé.
D'accord.
Un peu de tout partout. On a le support surtout en Roumanie.
D'accord.
Mais on a des devs produits en Roumanie, on a des devs produits en France. Donc on a les deux. Et on a des passionnés d'open source en Roumanie.
J'ai d'autres expériences en web agency en l'occurrence, où les devs roumains sont plutôt performants.
Ils sont bons, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème de niveau. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et ils peuvent être passionnés par l'open source. Mais quand ils y arrivent, ils ne savent pas forcément où ils mettent les pieds non plus. Mais comme moi, quand j'ai démarré. C'était sympa l'open source, mais j'avais pas forcément compris tous les éléments. Et j'ai appris beaucoup d'éléments, y compris. J'ai acquis une sensation d'importance de cet aspect open source. C'est-à-dire du fait qu'il faut que notre code il soit libre et que c'est quelque chose qu'on va laisser. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, en tant que patron de boîte, ça me suffit pas de juste dire on va gagner notre vie bien, pas bien, beaucoup, un peu, etc. Le fait de laisser quelque chose derrière, c'est intéressant.
Ce sera ta conclusion, Ludovic.
Alors si, j'ai un truc de plus parce qu'en fait, je voulais pas que de parler d'XWiki.
C'est vrai.
Parce qu'en fait, dans nos projets de recherche, on a lancé un autre projet.
Tu vas me parler de radio un peu ?
Non. C'est un projet qui s'appelle cryptpad.fr.
Cryptpad.
De quoi ça pourrait parler ?
D'un pad crypté.
Exactement. On a fait dans nos projets de recherche, c'est un Américain qui a fait ça chez nous. Pas par hasard. Alors pour lui c'est pas par hasard, mais pour moi c'est par hasard.
Ouais.
Parce que c'était pas l'objectif. L'objectif c'était de faire d'édition temps réel dans le wiki. Et en fait il nous l'a fait avec un système chiffré.
Excellent.
Et en fait, on a le premier pad temps réel chiffré aujourd'hui disponible sur Internet.
Il est où ?
Cryptpad.fr. Et tu peux créer un pad. Et en fait, le serveur n'a
mais
pas.
Mais il est où le code ? Je peux l'installer sur mon serveur ?
Alors oui, c'est GitHub. C'est sur GitHub. Tu prends, c'est du Node.js. Ah, c'est pas du Java.
Ah,
hein, c'est
Node.js.
Mieux. C'est mieux. Hein. Voilà.
Ouais, tous les trucs sympas que je trouve en ce moment, c'est du Node.js.
Alors, ah, c'est à la mode.
J'arrête pas de mettre du Node.js partout. Ouais. Ouais.
Et donc, en fait, c'est le serveur.
Génial.
A le fichier mais crypté. Enfin, donc ouais, chiffré, non, pardon.
En fait, on a un chat comme ça sur Libratoire. En fait, tous les échanges sont chiffrés sur une base SQLite. Je peux rien. Voilà. Donc là, c'est le même principe, en fait.
C'est un peu le même principe. Et en fait, l'objectif de CryptPad, c'est de développer un ensemble de systèmes chiffrés, temps réel, à base de pads. Donc on va avoir d'autres pads. On a un pad de présentation, par exemple. Tu peux faire une présentation en Markdown avec une feuille de style. Tu peux créer une présentation,
ça.
Elle est chiffrée aussi.
Ouais,
en fait, la clé de chiffrement est dans le hash, dans l'URL. Il n'y a que le client qui l'a.
Ouais, bah, okay,
c'est un peu comme Upone. Je ne sais pas si tu connais Upone.
Non, je ne connais pas.
Upone, c'est pour mettre des fichiers. En fait, tu peux mettre des fichiers ou un pastebin. C'est un peu comme pastebin, mais chiffré.
D'accord. Ah.
Et donc, CryptPad, c'est ça en chiffré.
Génial.
Et donc, on aimerait bien le faire connaître plus parce qu'on pense que la vie privée, c'est un élément important. Et
bah écoute, t'auras un cryptpad.libratoire.org dans deux jours.
N'hésite pas.
Dès que j'ai le temps. Ah. Mais mais carrément, parce que en fait, j'ai installé un pad.
Etherpad.
J'ai installé un Etherpad, mais il y a un an et demi maintenant. Donc on va migrer vers CryptPad.
Au passage, CryptPad est un pad qui est meilleur en WYSIWYG.
Mais en plus, je vois que l'interface est plus attrayante déjà.
En fait, c'est lié à la techno, c'est-à-dire que il y a deux technos balèzes dans CryptPad. Ouais. La première, c'est celle de chiffrement.
Il a l'air, ouais.
Et la deuxième qui est balèze, c'est la synchronisation de l'HTML.
Ok.
Qui fonctionne avec un autre système que le système d'Etherpad.
Ok.
Et qui permet de mettre tous les boutons du WYSIWYG. Et alors qu'Etherpad, c'est pas possible.
Non, là, effectivement, il y a plein de fonctionnalités que j'ai pas vues.
On a tous les boutons de. C'est un CK Editor complet.
Ah, c'est ça, d'accord. Ah,
c'est un CK Editor complet. Et
excellent.
En fait, demain, on pourra faire SVG, on pourra faire. En fait, c'est nos objectifs, c'est. En fait, tout ce qui est HTML pourra être synchronisé.
Excellent.
Ah, il y a un poll aussi, d'ailleurs. Il y a un équivalent à Framadate en chiffré.
Il est où ?
Il est sur la home de CryptPad. T'as quatre pads en bas de page.
Ah, attends.
T'as quatre boutons.
Ah oui,
en fait.
Un pad de code. Un sondage. Ah bah oui.
Sondage. Donc on a sondage,
un
présentation, code mirror et le pad WYSIWYG. Mais c'est le pad WYSIWYG, le truc le plus balèze.
Non, mais le pad WYSIWYG, j'adore.
Mais il y aura des trucs en plus dans le futur. En fait, il va y avoir des améliorations déjà au mois de février. Et puis après, on va encore ajouter beaucoup de choses. Voilà. Mais le point clé sera le chiffrement.
Ok, c'est sur GitHub. Très bien. Bah super, CryptPad, bientôt sur Libratoire.
Avec plaisir. Et vous nous renvoyez des retours.
Ben évidemment, Ludovic. Évidemment. Alors, qui est la jeune fille à côté de toi qui a l'air de te subir, en fait.
En fait, je pense qu'elle veut te parler de. Alors, c'est mon amie déjà, qui est roumaine.
D'accord.
Et qui est plus une contributrice de Open Food Facts. Tu connais Open Food Facts ?
Mais bien sûr. Allez, viens.
Elle a envie de te parler d'Open Food Facts.
Mais vas-y, parle-nous de. Non, mais en plus.
Au revoir.
Ouais, ciao, Ludovic. Merci.
Et elle travaille chez XWiki aussi.
Ah bah oui, évidemment.